Pour préparer cette émission, je me suis appuyé sur le témoignage, en particulier celui de Lucille, qui a été publié par Combini. Alors là, on fait aussi une émission un peu de vulgarisation. En tout cas, ça donne un éclairage plutôt concret sur la manière dont on vit le polyamour au quotidien, entre désir, organisation affective et rapport aux normes. On écoute la première partie.
Ces 10 dernières années, j'ai toujours eu deux personnes dans ma vie amoureuses. Mon mari et une personne supplémentaire, un homme, une femme, ça dépendait des fois, tout en ayant des enfants. Le polyamour, c'est la capacité à aimer plusieurs personnes en même temps. C'est pas forcément quelque chose qui est lié à la sexualité, c'est pas comme dans le couple libre ou le libertinage, il n'y a pas d'obligation à pratiquer le sexe avec de multiples partenaires, même si c'est possible dans le polyamour. Et j'ai eu envie de réfléchir, de m'accorder une liberté, à réfléchir à ce que je voulais comme modèle aussi. C'était important que je m'écoute plus, que la question de la tromperie, que tout ces trucs-là ne soient plus dans ma vie. Et donc, du coup, fatalement, ça m'a ouvert des portes sur la question de la non-monogamie, en l'occurrence. Quelques années plus tard, je suis tombée amoureuse d'une femme via les réseaux sociaux et on a décidé de vivre notre histoire avec le consentement de mon mari, du coup. Le lendemain matin de notre première soirée ensemble avec cette femme, parce qu'en fait, j'étais bouleversée. Je lui ai demandé à lui s'il était d'accord pour que j'aille la voir. J'assumais pas complètement d'être bisexuelle à l'époque, donc ça posait aussi la question d'un titre personnel, des choses à explorer. Je suis bouleversée. Je me rends compte que je suis déjà en train de tomber amoureuse d'elle, mais j'aime encore mon mari, et je ne sais pas quoi faire. Ça a été une grande discussion avec lui ce matin-là sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que du coup, ça l'impliquait. Pour moi, depuis le départ, ça l'a impliqué. Et il m'a dit, vis-le. Il voyait juste qu'elle m'avait fait du bien, dans le sens où je me sentais plus épanouie, plus heureuse, que du coup je commençais à tomber amoureuse et que c'était quelque chose qu'il trouvait beau chez moi.
Pour vous, en quoi le polyamour bouscule-t-il les normes dominantes de la famille, puisque ça revient là tout de suite, de la romance, du couple, communauté, puisque la famille peut être quand même perçue comme problématique, puisque c'est un lieu d'élection et c'est un rapport de domination.
On est dans une société qui place l'amour amoureux au centre du couple et la famille au centre de la société, et s'en écarter, c'est déjà faire un pas par rapport à la norme, d'autant plus quand on est une femme, où on a déjà, on subit déjà suffisamment de stigmatisation sur le fait d'avoir une vie sexuelle ou amoureuse. Là en plus, c'est une femme, et en plus elle est bisexuelle, donc ça rajoute du jugement et des a priori, de la sexualisation sur une situation qui n'est pas forcément jouer sur la sexualité, parce qu'elle elle le dit, la première soirée qu'elle passe avec elle, en fait, elle se rend compte qu'elle tombe amoureuse. Donc on est vraiment sur l'amour et les sentiments au centre de tout. Et ça, déjà, c'est très subversif par rapport à la norme.
Je pense que le polyamour, aujourd'hui, c'est aussi en vogue, parce qu'on parle de sentiments amoureux. Et il y a toute cette culture du sentiment amoureux, c'est noble, c'est beau, blablabla. Et moi, ça m'agace un peu parce qu'en fait, les gens qui pratiquent le libertinage, bref, ou toutes les personnes qui ont une vie sexuelle active et en dehors de la cellule familiale, c'est mal vu. C'est mal vu, il y a une question de morale derrière ça. Et moi, j'ai pas envie qu'on utilise le polyamour en mode... C'est très bien montré dans le bouquin Sexo Queer de Gwenekal, il y a une espèce de pyramide des perceptions sociales qui met le polyamour tout au-dessus parce que, voilà, c'est beau, c'est amoureux, machin. Et puis, en dessous, il y a les libertins, encore en dessous, il y a le BDSM, et puis à la fin, il y a les gangs Bang et les TDS. Et moi, il est hors de question qu'on vienne dire « Ah oui, le polyamour, c'est bien parce que bah, les autres, c'est pas moral. » Donc ça, moi, je veux pas adhérer à ce truc-là.
Effectivement, c'est vrai que la question des normes, c'est une question qui est centrale de manière générale en sexologie. Donc ça peut être des décalages sur les questions de corps, sur les questions de santé, tout ce qui va être en lien avec le validisme. J'ai beaucoup en consultation de personnes qui ont des TDAH, donc des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou des troubles du spectre autistique. Mais ça peut être aussi des handicaps, on va dire, moteurs. Il y a différents types d'handicaps et, par exemple, se construire une sexualité ou une vie intime lorsqu'on est porteur ou porteuse d'handicap, c'est très compliqué dans un monde qui est pensé par et pour des personnes valides. Mais c'est valable aussi sur toutes les autres questions. Celles dont on entend le plus parler, bien sûr, en ce moment, c'est, et depuis MeToo, c'est toutes les normes autour des questions de genre et des questions d'orientation. C'est ce qu'on appelle l'autonormie, donc toutes les normes autour du fait d'être hétérosexuel, mais aussi d'être cisgenre. Donc cisgenre, c'est lorsqu'on est en accord avec le genre qui nous est associé à la naissance. Et donc, moi, en consultation, j'ai principalement des personnes des milieux queer. Donc, ça peut être des personnes qui sont bisexuelles, ça peut être des personnes qui sont homosexuelles, mais ça peut être aussi des personnes qui sont transgenres ou des personnes qui sont non-binaires, etc. Et donc, accueillir en sexologie des personnes qui s'interrogent sur en lien avec, sur toutes les questions intimes sentimentales en lien avec les normes de genre ou d'orientation. C'est un vrai sujet parce que la sexologie, elle a été pensée, là encore, par des personnes qui sont hétéros, qui sont cisgenres, qui sont valides, etc. Et je pourrais rajouter aussi qu'ils sont souvent des personnes qui sont blanches.
Essayons de que chacun fasse ce qu'il veut avec ses sentiments et son cul. Ça permettra d'éviter de refaire une normalisation. Encore une fois, on bouge l'échelle des valeurs, mais on la pète pas. Donc cette idée de la romance, c'est bien de la casser. Et donc remettre les amitiés au centre, remettre les relations platoniques, la famille élargie, pardon, mais les queers ont ça depuis hyper longtemps, de repenser la famille, non pas comme des liens de sang, mais aussi des liens affectifs qui dépassent de personnes et des enfants. Ben, y a cette idée que, par exemple, avoir de la sexualité sans sentiments, c'est moins bien vu que de la sexualité avec des sentiments. Déjà, ça replace toujours la question de la sexualité. Je pense que le bouquin de Tal Madesta, Désirer à tout prix, est assez éclairant là-dessus, sur le fait que peut-on sortir de le sexe c'est bien, c'est mal, etc. Juste, les gens ont des sexualités diverses et des asexualités aussi. Tout ça c'est divers, on n'en fait pas, peu importe finalement. Et le sentiment romantique, c'est quelque chose qui est en effet plutôt très bien vu dans la société. Là l'idée c'est pas de juste décaler le regard en disant bah, aimer plusieurs personnes, vu que ça reste dans les sentiments amoureux, c'est bien. C'est plutôt de faire table rase de tout ça, mais ça implique aussi de casser le couple.
En tout cas, d'y réfléchir, de notions inculquées qui semblent être des réflexes, mais pas réellement, de se réapproprier tout un récit.
Pour personne, la sexualité, c'est pas forcément un terrain récréatif, super fun, de jeu, etc. Ça peut être aussi un terrain d'arrachement à soi-même et de décalage par rapport à soi-même, justement parce que la sexualité, elle peut être utilisée comme une arme, et contre beaucoup de personnes, elle est utilisée comme une arme. J'ai grandi dans un foyer très violent. Enfin, mon père était violent envers ma mère et envers moi. Et du coup, j'ai vu toute ma vie comment quelqu'un pouvait prendre le corps des autres comme punching ball total, comme terrain de défoulement de la violence. Et évidemment, ça a beaucoup conditionné mon rapport à mon propre corps, mon rapport à l'intimité, mon rapport à l'autre, juste de manière globale. Pendant longtemps, bah pour moi, la vulnérabilité, c'était potentiellement des espaces de danger. Toutes les représentations nous montrent un couple fonctionnel ou un couple heureux, comme un couple qui partage une sexualité effrénée, passionnelle, etc. Cet aspect de régularité dans la sexualité conjugale peut être hyper compliqué à vivre quand on entretient soi-même un rapport à la sexualité qui est beaucoup plus compliqué que ça, et on a souvent une approche très comptable de la sexualité en couple. Hein. Je pense par exemple à toutes les personnes qui se sont dit au moins une fois « ça fait 12 jours qu'on n'a pas eu de rapport sexuel, mince, il faut y aller ». La sexualité pour les femmes, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, notamment, c'est une charge de travail supplémentaire en fait. Si on jouit pas à chaque fois, ou si on n'a pas essayé ceci ou fait cela, on est complètement décalé par rapport aux personnes libérées, et que forcément bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose de cassé en nous. Il y a une approche qui, je trouve, amène beaucoup de dissociation avec son corps, en fait, parce qu'on le voit comme une espèce de machine à produire, voilà, à produire du plaisir, à produire des orgasmes, à produire de la satisfaction pour son conjoint, et je pense que c'est une approche qui nous coupe de nous-mêmes.
Sur son témoignage, effectivement, elle est mariée, enfin, tu vois, ça rajoute une dimension d'un coup très normie, comme tu dis, elle est mariée, elle a des enfants, je comprends que tu souhaites mettre un peu de nuance.
Oui, oui, mais c'est vrai que je pense que c'est très bien que des couples mariés revoient leur couple, qu'est-ce qui fait couple, finalement ? Et ça peut être, un couple, ça peut être une unité de soutien, et puis décloisonner les attractions romantiques, les attractions sexuelles, et quand même faire couple, en fait. Poser des questions, déjà, c'est bien, parce qu'en fait, dans une société mononormée, déjà, pouvoir se dire « qu'est-ce que je veux pour moi ?» Et du coup, je ressors mon concept d'autonormie de Barbara Paul. « Qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie de tous les jours ?»
Et je ne sais pas ce qui existe, et je me dis « je suis en train d'être la pire mère du monde », parce que du coup, c'est toujours sur ça qu'on attaque quand on fait des choses différentes. On dit tout de suite que ça a des conséquences sur les enfants, alors que là, mes enfants avaient un an et trois ans. Donc, le plus dur pour moi dans le polyamour, ça a été le jugement des autres. Alors, pas à titre personnel, je me suis habituée à ce qu'on me voit comme une sorte de salope ou quelqu'un qui potentiellement avait des grands désirs sexuels et donc, du coup, il fallait que je multiplie les partenaires. J'ai pas du tout vécu ça mal à force, par habitude, mais j'ai vécu mal le fait que mes enfants puissent avoir cette image de moi à travers le regard des autres. C'est ça qui a été le plus dur.
Ces doutes, ces craintes, au-delà du slut-shaming, c'était les enfants. Mmh. Voilà, comment faire et pour leur expliquer et le regard extérieur.
Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants et qui sont dans les cafés polis. Je pense que c'est toujours une grosse question. Il y a la question de est-ce qu'on visibilise ou pas auprès des enfants ? Dans quel but ? Parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt ? Enfin, surtout quand il y a du coup une ouverture de couple et que du coup les enfants sont déjà présents. Moi, j'ai un enfant qui a été conçu dans un polycule. C'est la structure où il y a plusieurs relations, donc les relations directes et puis après les méta-amours qui sont les amoureux, amoureuses de mes partenaires. Donc voilà, c'est tout cet ensemble. Dans mon cas personnel, c'est quelque chose qui est vécu de toute façon par mon enfant depuis le départ, donc il n'a pas cette représentation du duo parental uniquement. Et je pense vraiment que les enfants, c'est pas un problème. Enfin, comme quand on disait il leur faut un papa et une maman, on sait aujourd'hui que c'est globalement faux. En fait, les enfants ont besoin de structures d'attachement. Ils ont besoin de figures d'attachement. Si cette figure d'attachement apporte les soins nécessaires aux enfants, peu importe le nombre qu'il y a. Et en fait, en plus, c'est une vision qui est hyper occidentale parce qu'il y a tout un tas de pays ou d'autres endroits où en fait la structure familiale elle est beaucoup plus élargie que juste les parents et que ça pose pas de problème en fait. C'est juste est-ce qu'il y a du soin auprès des enfants.
Ouais, c'est qui élève les enfants en fait.
Exactement, puis il y a une expression qu'on entend souvent et qu'on applique très peu en Occident, c'est il faut tout un village pour élever les enfants. C'est et là, vrai. En fait, ce sont des structures amoureuses et relationnelles qui permettent directement. Mais après, c'est vrai que la question de comment on informe les enfants, c'est une question qui nous revient régulièrement, que ce soit nous sur les discussions en café poli ou sur le Discord. Ben, suivant l'âge des enfants, est-ce qu'on leur dit, est-ce qu'on leur dit pas ? Puis si les enfants sont au courant, et comment ils vont en parler à l'extérieur ? Comment ça va être jugé de l'extérieur ? Qu'est-ce qui va leur revenir ? Qu'est-ce qui va revenir aussi de la part des grands-parents, qui sont pas forcément au courant et qui peuvent juger ? Et c'est vrai que ce sont des questions qui sont vastes et récurrentes.
Ouais, c'est toutes les questions autour du coming out. Et là encore, je pense qu'il faut pas faire porter, enfin ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il faut pas faire porter aux enfants le poids de devoir cacher ça. En fait, dire des choses aux enfants pour qu'ils doivent le cacher, je pense que ça c'est vraiment pas positif.
En mode secret, il y a rien de pire.
Le secret c'est terrible pour les enfants. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des situations individuelles.
Je pense que le regard extérieur critique vachement le côté tabou.
Et il n'y a pas de recette miracle, je crois, là.
Oui, ça se fait en fonction des sensibilités et des besoins de chacun, chacune.
Ouais. Je pense que c'est important, en tout cas, d'être bien sûr de ce qu'on fait, de comment on l'annonce, d'utiliser les mots appropriés à l'âge des enfants. Beaucoup de bienveillance, et puis les enfants ne sont pas obligés de tout savoir non plus. Enfin...
On est aussi... à la découverte de son propre bien-être quelque part et de ce qui fonctionne pour nous mais pas forcément pour les autres.
Exactement, parce qu'on a tous des histoires qui sont personnelles avec des enjeux qui sont personnels, des discriminations qui vont être différentes suivant les individus également et des impacts sur nos vies de s'outer comme ça sur un modèle relationnel différent. Plus on est privilégié, plus l'impact peut être minimisé. Moins on est privilégié, plus l'impact peut être discriminant encore plus. Dans une situation où on est déjà bien discriminé, je comprends qu'on n'ait pas envie de prendre un risque de s'ajouter une charge mentale, des violences potentielles par la société. Il faut aussi savoir se protéger. On ne doit pas de transparence sur nos vies amoureuses et sexuelles au monde entier non plus. Chacun est bien libre de mettre la limite de ce qu'il transmet au monde, là où ça l'arrange, là où il est, où elle est tranquille avec, pour vivre sereinement ou au plus sereinement possible.
En France, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup ça, mais en tout cas au Canada, où ces questions-là sont ouvertes depuis bien plus longtemps, il y a quand même des témoignages et des statistiques qui montrent que l'outing, notamment au niveau des enfants, et puis après ça se diffuse, peut engendrer des problèmes de garde d'enfants. Parce qu'en fait, institutionnellement, il faut rappeler que ça n'existe pas. Enfin, on a un vide juridique complet là-dessus. Se faire retirer les enfants. Dans les cafés poly à Toulouse, on a rencontré des personnes qui vivaient du polyamour et donc avaient des problématiques au niveau d'avoir des papiers. Donc en fait, des personnes sans papier qui sont dans le polyamour et qui sont en effet dans une situation d'oppression, et bah, ça va leur poser des problèmes. Donc là encore, ça, c'est des vraies difficultés parce que d'un point de vue structurel, on n'existe pas.
Les normes, c'est de très mauvaises habitudes qu'on a de la peine à mettre en cause. Si je propose d'abolir les normes, ces normes qui nous tuent souvent à petit feu parce qu'elles sont imposées par l'extérieur, ce n'est pas non plus pour donner dans le désordre ou la déconstruction ou le chaos, mais c'est pour donner dans ce que j'appelle l'autonormie, c'est-à-dire se créer ses propres normes. L'idée, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, tout en respectant les lois d'ailleurs. C'est pour ça que je ne parle pas d'autonomie, qui étymologiquement veut dire ses propres lois, mais d'autonormie, des normes. C'est les normes. On n'a pas besoin de suivre les normes qu'on nous impose de l'extérieur. Ce n'est pas nécessaire. Nous le savons, mais nous l'oublions constamment parce que la norme devient cette habitude. En général, au lieu de vraiment se baser sur ses propres normes, c'est-à-dire ce qu'on veut vraiment, connais-toi toi-même, sais ce que tu veux et quelles normes tu veux appliquer à ta vie, on saute aux normes, mais par l'extérieur, on prend les normes qu'on nous impose, que la société nous impose, les parents, l'école, le monde. Oui, bien sûr, on participe à la norme au lieu de s'en libérer et on fait sienne les normes des autres. Alors que ce que je propose, c'est qu'on se concentre sur les siennes propres.